Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine de la vue subjective qui voudrait faire peur, ou qui fait peur, ou qui fait trop peur. Enfin voilà, en fait on va parler de Outlast 2, on va parler de Prey, on va parler de Kona, hein, je lis mes fiches parce que je sais pas du tout vers quoi on va, mais c'est toi qui vas nous en parler Patrick. Et puis dans un tout autre genre, on parlera à la fin de l'émission de ce formidable chef-d'œuvre qu'est Siberia 3. Il y a eu un piège dans la phrase précédente. Voilà. Et puis, Monsieur Fall, le com des coms, vous connaissez le programme, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Joël Métro, bonjour Joël. Bonjour. On commence avec toi Patrick, avec de la VR.
Ah oui, alors on va parler réalité virtuelle cette semaine, il y a plusieurs annonces qui sont passées. Il faudrait que j'en fasse des New CinemaWare. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que c'est bien.
Les CinemaWare se mettent à la VR.
Non, mais il va falloir qu'on trouver des New CinemaWare. Ça fait un petit moment, faut pas se relâcher. Alors des news réalité virtuelle, des choses intéressantes. Une interview qu'a donnée Jay Hong. Donc lui, c'est le senior vice-président de l'innovation et des jeux vidéo chez Marvel. Il a donné une interview il y a quelques jours à GameSpot, qui était assez intéressante parce qu'il parlait des nombreux projets de Marvel dans le jeu vidéo. On sait qu'ils sont en train de dispatcher pas mal de projets. Il y a un Spider-Man chez Insomniac Sony, en monde ouvert, qui a l'air d'être vraiment pas mal. Il y a un Gardien des Galaxies chez Telltale qui vient de sortir, un premier épisode. On en reparlera peut-être d'ailleurs prochainement, mais j'ai un peu pu l'essayer. Je crois qu'il y a un gros projet Avengers qui est en préparation, genre MMO très connecté. Donc tout ça va sûrement se préciser et on aura sûrement des choses à l'E3, je pense, autour de quelques jeux. Et puis, lors de cette interview, il a parlé réalité virtuelle. Et en fait, sans donner trop de précisions, parce que visiblement, il y a des accords qui vont être dévoilés, des choses qui... En gros, il dit pas grand-chose, mais il dit que du lourd se prépare. Et en fait, il laisse espérer des gros projets de réalité virtuelle. Il dit que Marvel, a priori, travaille dessus depuis la fin de l'année dernière. Il y a des grosses choses dans ses cartons qui pourraient arriver. Ça reste nébuleux, on n'en sait pas plus, mais a priori, le garçon croit beaucoup à la réalité virtuelle et visiblement au mariage entre les fameux personnages de l'écurie Marvel avec la réalité virtuelle. C'est intéressant, ça pose pas mal de questions, en attendant d'en savoir plus, on espère qu'il y aura des choses là aussi à l'E3 qui vont être révélées. Ça pose des questions. Autant la réalité virtuelle, c'est fantastique parce que ça nous permet de nous prendre pour n'importe quoi, de devenir justement un super-héros.
Batman.
Exactement, et ça pose la question... À quel point on va pouvoir devenir, je sais pas moi, un Iron Man ou un Spider-Man? Alors moi, je rêve quelque part d'être un Spider-Man et de me balader entre deux buildings, mais est-ce que ça va être vivable en réalité virtuelle? Parce que les sensations...
Je peux spoiler ou pas?
Vas-y.
Non, mais ça
pose une grande question.
Tu ne peux pas incarner Spider-Man.
Ça pose la question, pourquoi est-ce que Batman, pour l'instant, est à ma connaissance le seul super-héros qui a été adapté?
Parce que
c'est un enquêteur.
Voilà, parce que Rocksteady a choisi l'aspect détective et détective. Ce côté, on se téléporte.
Alors justement, moi... Bah justement, je suis friand de savoir dans quel sens ça va aller. Alors, il n'a pas détaillé ses pistes.
On pourrait incarner Diablo, tu vois.
Ses pistes de réalité virtuelle. Est-ce qu'on parle de contenu promotionnel pour soutenir un film, comme ça se fait pas mal, donc des tout petits contenus? Ou est-ce qu'on parle de jeux avec plus d'ampleur? Ça reste intéressant. Moi, je ne serais pas contre. En tout cas, questionner jusqu'à quel point on peut imaginer un Spider-Man en réalité virtuelle avec des sensations fortes qui seraient la clé. En tout cas, ça questionne la façon dont on peut mettre en scène ce genre de choses. Je pense que la piste peut être intéressante. Après, ça demande un gros travail d'adaptation, de mise en scène, de comment on aborde ça. C'est le fantasme ultime. Quand on parle de réalité virtuelle, c'est de devenir un personnage comme ça, avec des super pouvoirs et de pouvoir faire des choses hallucinantes.
C'est le fantasme ultime et c'est la limite infranchissable.
C'est la limite. Et justement, c'est pour ça que cette interview est intéressante. C'est qu'il n'en dit pas plus. On sent que, je pense que Marvel est intéressé par le concept, justement, d'être complètement injecté dans la personnalité d'un super-héros, mais... Je pense que ça peut se heurter aux possibilités, aux limitations de l'usage. Et voilà, et surtout quand on s'appelle Marvel.
Je rigole parce que j'imagine juste la simulation de Spider-Man.
Tu
lances une toile, deux toiles, c'est fini.
Après, ça dépend. Et justement, il faut questionner. Je pense qu'il faut travailler dessus. Il faut poser des questions. Comment on met en scène tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des petites astuces de mise en scène, un Spider-Man qui serait assis, en fait. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Et encore une fois, Batman a été le seul pour l'instant qui a été adapté, à moins qu'il y ait des choses que j'ai loupées, mais je crois pas. Je crois que Batman a été le seul. Mmh. Ça marchait bien parce que c'était une session de jeu assez courte.
C'était bien trouvé.
Et c'était posé.
Mais en tout cas, Marvel, ça fait 10 ans qu'ils ont construit leur cinématique univers, mais ils n'ont pas encore réussi, en fait, à part, il y a les Lego et Disney Infinity, mais ils n'ont pas réussi à insuffler justement un souffle dans les jeux.
C'est
un peu un ratage dans leur univers.
Ils essaient justement de déployer leurs personnages sur d'autres supports. Je reste dans la réalité virtuelle. Moi, une annonce qui m'a fait plaisir, c'est l'arrivée en courant juin d'un jeu que j'avais repéré, que j'ai pas pu essayer à l'époque, qui est sorti sur Oculus et HTC, c'est Arizona Sunshine. C'est un jeu de zombies, en fait. C'est un peu un genre Dead Island, mais en plein désert. Ça arrive donc sur PlayStation VR le mois prochain, et a priori, il a eu très bonne presse à l'époque, lorsqu'il est sorti il y a quelques mois maintenant, donc sur Oculus et HTC. A priori, c'est un très bon jeu VR, donc il arrive sur Sony le mois prochain. Il est signé d'un studio qui s'appelle Vertigo Games. Alors, Vertigo Games, quand on fait de la VR, c'est un peu bizarre comme nom, mais bon, pourquoi pas, on va suivre ça de près. En tout cas, il a eu bonne presse, on va suivre ça pour le mois prochain. Puis une dernière news, moi, qui m'a fait plaisir, c'est le grand retour de Deadly Premonition. Rappelez-vous, Deadly Premonition, j'en ai parlé ici plusieurs fois. Ce jeu d'aventure en monde ouvert, complètement très difficile à résumer, une expérience barrée, une sorte de... Non, nanar, attention.
Attention,
un sublime nanar, en fait, avec un enquêteur qui arrivait dans une ville et qui devait, on était dans un monde surnaturel, avec une enquête en monde ouvert, un jeu très ambitieux, mais qui avait une technique un petit peu, un peu à la rue, mais il avait un cachet, un charme. Le jeu était un petit peu oublié depuis un moment, pas de réédition sur les consoles actuelles, on était quelques-uns encore à s'accrocher à ce jeu, qui était sorti, on le rappelle, donc sur 360, PS3 et PC, il est encore sur GOG en promo il y a quelques temps, je conseille pour ceux qui ne le connaissent pas. Et en fait, un Kickstarter a été lancé il y a quelques jours pour donc en faire un jeu de plateau. Un jeu plateau Dead Premonition. Riez, mais ça a cartonné. Je crois que ça a été validé, il a été rempli en 8 heures. Il y avait un objectif.
Sachant que les jeux de plateau, ça reste un des secteurs qui marche beaucoup.
Des gros très gros cartons en Kickstarter. Surtout quand on a une communauté comme ça. Et Deadly Premonition, on n'est pas beaucoup, mais je pense que les gens qui suivent sont vraiment attachés à cet univers. Et les développeurs avaient fait une vidéo très chouette où ils expliquaient leur projet de jeu, etc. Donc là, ils en sont à, ils avaient un objectif de 50 000 $, je crois qu'ils sont à 100 000, et on a jusqu'à début juin pour continuer à backer. Mais en tout cas, le jeu est financé, il va se faire. Alors c'est assez étonnant, on peut pas dire que c'est forcément le jeu qui se prêtait le plus à l'adaptation au jeu de plateau. A priori, ça va se présenter comme un jeu d'enquête, d'après ce que j'ai compris. On peut jouer de 2 à 4 joueurs, on va avoir chacun des suspects à suivre, etc. Forme de Cluedo un petit peu améliorée, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que cette licence n'est pas morte, qu'elle est toujours là. Le jeu est quand même donc suivi par Swery, le développeur du jeu vidéo, donc lui, il cautionne, il va sûrement suivre ça de très près. Donc ça fait plaisir. Si ça peut permettre de remettre au goût du jour, de remettre en avant cette licence, si ça peut donner des idées de peut-être de suite ou auto, en tout cas de remasterisation sur les consoles actuelles, ce serait génial.
Voilà. Moi, j'ai hâte que M. Fall en parle.
On espère qu'il en parlera. Je crois qu'on n'a pas encore de date de sortie, mais en tout cas, on va suivre ça de près, évidemment.
Alors, Joël, il y a encore des gens qui jouent à Pokémon Go.
Il y a encore des gens qui jouent à Pokémon Go. Il y a aussi des gens qui vont en prison à cause de Pokémon Go. C'est moins rigolo. Ouais. Mais ça se passe dans un pays qu'on aime bien, mais qui a toujours des petits problèmes avec, de manière générale, avec les mœurs, avec les libertés. Il s'agit de la Russie, cette chère étant en Russie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, un jeune homme qui s'appelle Ruslan Sokolovski, qui était parti, en fait, c'était cet été, en fait, pour jouer au Pokémon Go. C'est un YouTuber qui a à peu près 270 000 abonnés. Et il était parti essayer de choper des Pokémon dans une église, la cathédrale de Ekaterinbourg. Et le problème, en fait, il voulait un peu tester un article, mettre, comment dire, en... enfin se mettre, il s'est mis un peu en danger, il voulait tester en fait voir si l'article 148 de un article 148 dans le code pénal russe qui a été introduit en 2013 en fait suite à l'histoire des Pussy Riot qui avait investi une église, il voulait voir si cet article 148 qui consiste à condamner les gens qui insultent les autres à l'égard du sentiment religieux, enfin donc qui insultent les croyants, il voulait voir si on pouvait vraiment se faire condamner. Eh ben oui, il a été interpellé. Après, effectivement, bon, il avait comparé lors de cette vidéo, puisqu'il s'était mis en scène, il avait comparé Jésus à un mort-vivant. Ça n'a pas trop plu. Et puis donc, il a fait à peu près huit mois de détention, préventive. Ce jeudi, s'est tenu son procès et il a écopé de 3 ans et demi de prison avec sursis. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Voilà.
Et on sait s'il avait eu des Pokémon ou...
On ne sait pas s'il avait eu des Pokémon, mais au moins un truc. Voilà,
donc il est sûr maintenant.
Voilà, donc voilà, la Russie, après l'histoire voilà, de, je ne sais pas, vous vous rappelez, voilà, de Mass Effect qui avait été plus ou moins, enfin interdit au moins de 18 ans parce que mettant en scène des relations homo. Voilà. Bon, la Russie n'est toujours pas tendre à l'égard des joueurs de jeux vidéo. Où qu'il soit.
Des nouvelles aussi de Square Enix.
Oui, très rapidement. En fait, ils ont fait leur bilan fiscal et viennent d'annoncer qu'ils vont se séparer du studio IO Interactive qui produit et réalise les Hitman. Alors donc ça laisse pas de bon augure pour la franchise. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne dans les mois à venir.
C'est une franchise historique. C'est une franchise qui peut revenir avec
un autre éditeur. Oui. Oui, on va voir.
Je vais le retirer à l'éditeur d'origine, qui avait plutôt fait du bon travail, je crois.
Donc à voir.
Le com des coms de... pas de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, nous recevions Alexandre Serrel pour son livre sur l'histoire de Tomb Raider, mais avec les jours fériés, il a été mis en ligne un peu tard, donc on n'a pas forcément des réactions. Enfin, s'il y a des réactions très très positives sur nos lives et sur YouTube, notamment, où les gens ont adoré, parce que c'est vrai que c'était super intéressant, en tout cas, nous on avait beaucoup aimé cet entretien.
Le livre est génial.
Et le livre est vraiment génial. Donc en fait, le com des coms d'il y a 2 semaines, c'était notamment sur Mario Kart, et on a KidScore 2600 qui nous dit effectivement la Switch transcende l'expérience Mario Kart ou l'inverse. Avec le multilocal et plusieurs Switch, chacun avec un Joy-Con, on retrouve la ferveur du multi à la papa, cri, mauvaise foi, amitié perdue à jamais, etc. Vu le sans faute ou quasi réalisé jusqu'à présent, j'attends avec impatience le ARMS du coup. Et Shanghai Max qui relance là-dessus. Oui, pareil, j'attends ARMS avec intérêt. Mario Kart est parfait sur Switch. Je pestais contre Nintendo à cause du recyclage des titres Wii U, mais je sous-estimais alors la machine elle-même et son utilisation à multiples facettes. Ouais, c'est ce qu'on a dit, c'est que c'est pas seulement un lifting de Mario Kart sur Switch, c'est finalement...
C'est un Mario Kart de salon qu'on emmène partout, en fait.
Ouais, et il y a un peu ce mariage comme ça, cette évolution avec la console elle-même, et c'est là où ça rend cette Switch assez, assez impressionnante. Moi, l'autre jour, j'ai encore recroisé quelqu'un qui jouait à Zelda dans le métro, et ça me fait le même effet à chaque fois.
T'as envie de prendre
Non, pas du tout.
On n'a pas plus d'infos sur le multijoueur payant de la Switch, parce que ça devait normalement arriver en fin d'année. Ouais. Je sais pas si on n'a pas eu plus d'infos pour l'instant. Enfin, j'ai rien vu passer.
On va voir.
Parce que ce sera le passage obligé pour pas mal de joueurs sur Mario Kart, en l'occurrence. Pour continuer à jouer en ligne.
À l'E3
Moi, je pense, oui.
Peut-être à l'E3. Où on en est? Bah oui, on en est au début. Il va falloir parler de jeux vidéo, chers amis, et d'un jeu en particulier, un jeu qui faisait peur dans sa première version, Outlast, il y a quelques années, avec ce truc de ne pas avoir d'armes, mais d'avoir juste cette caméra. Et là, il y a le 2 qui vient de sortir, donc Outlast 2.
Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a father up above, and he's looking down in loves. Careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a father up above, and he's looking down above, so be careful.
Alors, Outlast 2, moi, il faut que, enfin voilà, il faut le dire. Non, il faut qu'on en parle. Non, il y a un moment où le truc qui fait peur en vue subjective, eh ben, j'ai un gros problème.
Et c'est vrai que là, le niveau est assez, assez un des gros. Enfin, Outlast, on sait que c'est une des.
Est-ce que on doit aller au-delà de ses propres limites dans le cadre d'une émission comme Silence on joue? Je ne sais pas.
C'est notre devoir pour nos auditeurs, spectateurs.
Moi, déjà, je l'ai téléchargé. J'ai lancé. Voilà.
Tu sens que tu trembles déjà quand il faut cliquer pour téléchargement, tu sais.
Non, le téléchargement, ça va. Il y a encore une distance. Le lancement, je suis moins sûr.
C'est vrai que dès l'accueil et le menu, tout de suite, la musique est inquiétante. Enfin, il y a un côté assez stressant dans Outlast depuis le début, hein, depuis le premier. Moi, j'avais fait le premier il y a quelques années. C'est vrai que voilà, dès le menu, on est dans un monde... Enfin, c'est angoissant, quoi. Tout est flippant. C'est sans pitié, Outlast.
Voilà, donc,
c'est aussi son intérêt. Hein. Moi, je trouve qu'il est, il y va franchement.
Mais à la limite, tu vois, là je peux vous parler de l'hélicoptère.
Ouais.
Tu vois, hein, parlons de l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est le début du jeu. Donc, on incarne Blake Langerman, hein, qui travaille avec sa femme Lynn, qui, elle, est reporter. Donc, lui est caméraman. On incarne le caméraman. Et on est à la recherche, comme ça, d'une femme... il y a eu une mort mystérieuse. Hein, voilà,
oui, on
essaye de trouver un peu les raisons du truc. On est dans un hélicoptère.
Le début, on rigole. Enfin, moi, juste le début, comme ça, je rigole.
Il faut bien profiter.
Oui, c'est ça. Non, mais juste le début... parce que c'est mal doublé et que ce crash d'hélicoptère est un peu ridicule. Le début, on rigole.
Voilà, donc on est en train de filmer, l'hélicoptère se crash.
Ah, moi aussi, ça m'a fait rire. Voilà.
Très vite, en fait, on est très vite dans la panade, en fait, en quelques minutes, très vite.
Et puis là, on atterrit au milieu.
On atterrit pas, on se crash.
Oui, on se crash, on se réveille. Et il va falloir, évidemment, un, retrouver sa femme. Et deux, éviter de mourir. Et éviter de mourir et comprendre ce qui se passe. Et donc, on a la formidable trouvaille qui est directement issue du premier Outlast. Mmh. On a cette obligation, hein, finalement, de filmer. Mmh. Et puis, on a la formidable vision nocturne de la caméra.
C'est la signature de la série, ça.
Cette vision nocturne, ajoutée avec ce petit indicateur de batterie, hein, qui rend un peu le truc un peu stressant.
Quand
parce
ça devient
que,
rouge et que ça clignote. Ouais.
Voilà, c'est ça. C'est que si on n'a plus la vision nocturne, mécaniquement, on est dans le noir. Mm-hmm. Et être dans le noir dans Outlast, c'est pas bien.
C'est encore mieux. C'est mieux. On voit rien.
Donc voilà, on ressort, il y a l'hélicoptère, la carcasse de l'hélicoptère qui brûle, et puis là on découvre un peu quelques détails un peu macabres. Et puis voilà. Voilà, donc je vais vous laisser la parole maintenant
c'est marrant parce que.
Moi je crois que là où j'ai commencé à plus aimer, c'est quand on nous dit pour regarder derrière vous, appuyez sur telle touche.
La gâchette pour regarder derrière soi.
Voilà. Moi je ne l'ai pas fait.
Ah mais il faut le faire. Il y a des moments.
Non.
Alors
je vais
vous raconter, mais je ne vais pas spoiler, mais il y a des moments où on passe sous des maisons, où on est sous des fondations de maisons, parce qu'il faut passer, on est poursuivi par des malades mentaux.
Rien que là, on sent que ça va arriver.
Il y a ces moments fabuleux.
J'étais pas bien.
Où cette touche, c'est crispant, quoi. C'est que tu es poursuivi par des malades mentaux, où tu passes sous une maison en stress parce qu'il faut vite. Et tu appuies, à ce moment où tu appuies sur la gâchette et tu vois que le mec, il te frôle les pieds. Enfin, il est derrière toi avec un couteau.
Ouais.
Et c'est, ça, c'est vraiment.
Mais si,
parce que ça fait partie du trip, en fait, de Outlast.
Le problème, c'est qu'à partir du moment où on m'a proposé ça, j'arrivais plus à avancer. Parce que,
en fait, tu passes ton temps à regarder tout le temps derrière toi dès qu'il y a un bruit.
Et en plus, il y a des bruits. Il y a des bruits tout le temps.
Et Outlast, en fait, depuis le premier, on rappelle rapidement le premier, pareil, on était on était aussi un caméraman, on filmait, et là, on se rendait dans un hôpital glauque, hanté, et évidemment, ça tournait très mal, on tombait sur des monstres abominables. C'est une série assez particulière parce que finalement, on n'est pas dans l'action dans Outlast, hein, depuis le premier. On est observateur. C'est-à-dire que le thème de cette caméra qui vraiment se positionne dans tout ce qu'on a au cinéma, dans les Cloverfield et compagnie, où finalement, on incarne un personnage qui n'est pas dans l'action ou très peu dans l'action. Son rôle, c'est avant tout d'explorer et de survivre, de se soigner dès qu'il le peut, d'éclairer et de regarder. En fait, on est vraiment dans une position de voyeur, on actionne les événements du script, mais on n'est pas dans l'action, c'est-à-dire qu'on ne se bastonne pas, on est juste là à essayer de...
C'est frustrant quand même. Hein. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu...
C'est un état d'esprit, c'est vrai que c'est un état d'esprit très particulier, parce qu'on n'est pas dans la... Finalement, oui, à part ouvrir des portes, à part... En fait, on est vraiment en une gestion de l'espace, c'est-à-dire reconnaître des... comment se diriger, trouver les endroits pour trouver comment dire, des soins pour survivre, trouver les piles. C'est une obsession dans ces jeux, c'est trouver les piles de, pour, comme tu disais, garder la caméra en route et surtout la lampe nocturne. Là, il y a eu un effort de Red Barrels, donc qui est le studio qui travaille sur la série depuis le début, c'est d'élargir un petit peu le scope. C'est vrai qu'on était sur une unité de lieu assez enfermée, assez étouffante sur le premier, ouais. Dans cet hôpital glauque. Là, il y a une volonté d'aller vers des environnements un peu plus ouverts parce qu'on est en extérieur. Et en fait, pour situer, on est un peu dans un trip. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Resident Evil 4 avec ce village comme ça de mecs complètement tordus dans une secte complètement folle. Et donc, on est dans des environnements un tout petit peu plus ouvert.
Ça reste quand même très, très un
peu un trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on a des séquences un peu plus ouvertes. Moi, que j'avais vu dans la démo jouable, je vous avais déjà parlé de la démo jouable il y a quelques mois, il y a cette séquence que je trouve plutôt réussie où on est dans des champs de blé, je crois.
Ouais, de blé, ouais.
Où on court comme ça, on ne voit plus devant soi. En fait, on est là, on est complètement... Et on se repère juste au mouvement de lumière, les faisceaux de lumière des ennemis. Et c'est là où le jeu, je trouve, il y a un vrai apport par rapport au premier. C'est là-dedans, déjà la réalisation est beaucoup plus belle. Je trouve que graphiquement, le jeu, il y a un vrai cachet. Il est quasi photoréaliste dans les détails. On sent qu'il y a de la photo injectée dans le jeu sur des objets, sur des... Il y a un vrai côté photoréaliste. Et ça, c'est... Il y a des vraies fulgurances visuelles, ces flashs de lumière. On passe son temps comme ça à être stressé par les flashs de lumière des ennemis, à repérer leurs mouvements, et leurs mouvements, on les reconnaît à ça, c'est aux flashs de lumière. Et ça, c'est vraiment une avancée par rapport au premier. Après, il faut savoir qu'on est sur un jeu... j'aime bien aussi le côté inventaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, on peut regarder comme ça, on voit ses objets sur soi. Et ça avait été... Il y a un Alone in the Dark qui avait essayé de faire ça à une époque aussi, où on pouvait regarder... et ce n'est pas assez utilisé. Moi qui aime bien le body awareness dans les jeux, je trouve que c'est une bonne piste d'avoir son inventaire sur soi. On est sur du jeu en die and retry, c'est-à-dire qu'il faut, plus en avance, on se rend compte qu'il faut vraiment faire attention à ses déplacements, il faut repérer les patterns des ennemis, les éviter, parce que de toute façon, on n'est pas là pour se battre et on est vraiment là... On est vraiment en mode survie et il faut repérer les meilleures trajectoires, repérer les bonus de survie. C'est vraiment important. Moi, autant je trouve qu'il y a une vraie amélioration graphique en termes de ton, en termes d'ambiance. Il y a un côté cru, le thème, c'est de l'horreur sans... Il fait pas dans le détail. Quoi.
C'est sans chichi. Quoi.
C'est cru. On a beaucoup parlé de Resident Evil 7 il y a quelques temps, qui est une vraie réussite là-dedans, dans ce côté où on est embarqué comme ça dans un trip de quelques heures en vue subjective. Là, c'est un plan séquence, ce jeu. On le vit comme un plan séquence. Et c'est une réussite pour ça. Et là, il y a un côté sans concession. C'est-à-dire que Resident Evil 7 est très réussi dans son genre. On reste quand même dans un Resident Evil 7, dans un jeu Capcom. On sait un peu où on met les pieds, malgré tout, même s'il y a des vrais moments de stress. Là, on sent que les mecs sont un peu en roue libre en termes d'horreur. On a des visions. On se rapproche plus de Resident Evil 4, justement, dans des visions de sacrifice, de choses vraiment, vraiment, vraiment glauques, où il y a des passages vraiment très difficiles. Encore une fois, donc il y a une vraie performance visuelle. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, on passe son temps avec cette signature, comme on le disait, de vue nocturne. C'est-à-dire qu'on peut quasiment pas jouer en vue réelle.
C'est un peu dommage.
Je trouve ça dommage. C'est la signature du jeu.
Et ça devient redondant.
Ça aplatit finalement. Il y avait une volonté d'apporter de la diversité de décors, etc. Et on sent qu'il y a cette volonté. On passe dans des villages, dans des décors différents. Mais finalement, quand on essaie de jouer en vue normale de nuit, on ne voit plus rien. En fait, on ne peut quasiment pas jouer. Et ça, c'est un peu dommage de ne pas avoir permis d'avoir plus cette vision photoréaliste, alors que c'est réussi. Il y avait les décors.
Je suis d'accord avec Patrick sur ce fait. C'est-à-dire que l'usage de la caméra, devient un peu lourdin au bout d'un moment. On a vraiment envie de s'en débarrasser, parce qu'effectivement...
On n'a pas le choix.
On est obligé, en fait, même pour la narration, c'est-à-dire pour la narration, on prend la caméra, on fixe quelque chose, et c'est un peu, on nous explique, qu'est-ce qu'on voit, les pensées du héros. Et je trouve ça un peu lourd, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on a vraiment envie de jeter cette caméra, d'aller chercher une lampe torche ou n'importe quoi.
Après, c'est vrai que c'est le seul ressort d'interaction qu'on a, cette caméra, parce que finalement, on peut quasiment rien utiliser dans les décors. On n'a pas d'action par ouvrir les portes, se cacher dans les placards, on a très peu d'interaction au final avec le décor. Tout passe par cette caméra et cette fameuse vision.
Mais que je trouve lourd et frustrant au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on a envie que le gameplay évolue un petit peu.
Mais je trouve que cette vision, c'est encore une fois la signature du jeu, mais elle aplatit vraiment les efforts, j'ai l'impression, qui ont été rendus. Et des fois, c'est flagrant, c'est qu'on est en vision verte et ça aplatit, c'est pas très beau. Visuellement, il y a un effet, mais c'est pas très beau. C'est un peu lassant, comme tu le dis. Et il y a des moments où on coupe la caméra, on se dit, mais il est magnifique ce jeu. Quand on se retrouve dans la pénombre, avec un personnage qui vient vers nous.
Mais dès le début.
Les persos qui se baladent devant nous sont photoréalistes. Il y a un réalisme qui est vraiment au-dessus de la plupart des jeux de ce genre, qui sont vraiment stressants. Et c'est dommage parce que tout ça est aplati par la vision nocturne qui casse un peu cet effet. Et c'est vrai que quand on la coupe quelques instants, on se dit, mais il est magnifique ce jeu. C'est un peu le regret. Maintenant, ça reste un trip de quelques heures qui est complètement dingue. Il y a une folie dans ce jeu.
Moi, je suis pas allé très loin parce que je suis trop peur. J'ai trop peur, c'est que le jeu me fout les chocottes, quoi.
C'est assez malsain, ouais. Quand on se fait courser par un personnage qui nous lâche pas en plus, parce qu'ils ont tendance quand même, une fois qu'ils nous ont captés, à pas nous lâcher, à nous poursuivre même dans les maisons. Hein, ils essaient de deviner par où on est passé. Enfin, c'est très stressant.
Il y a un truc. Après, moi, ça m'interroge. Ça m'interroge sur ma capacité à jouer à ce genre de jeu, parce que j'ai toujours l'impression, et ça confirme dans ce que tu racontes, que pour s'en sortir, ça reste un jeu finalement assez classique dans le gameplay. Ouais. Tu parles de pattern d'ennemis, exactement, de reconnaissance, de fuite, de munitions, enfin d'équipements et de choses comme ça qui sont finalement des choses très classiques dans le jeu vidéo. Et donc le challenge pour le joueur est de reconnaître ces choses, ces éléments classiques du jeu vidéo, die and retry et ce genre de choses pour franchir les obstacles. Le problème, c'est que quand on ressent le jeu, en tout cas comme c'est mon cas, parce que de façon viscérale, je sais que j'ai un truc avec la vue subjective, où dès que je suis dans un jeu en vue subjective, je suis tellement... Non, moi j'ai... Et c'est mon problème, dans les FPS, j'ai ce problème-là, c'est que je déteste qu'on me tire dessus. Non, mais je déteste... Je déteste être touché. Pour moi, je joue un jeu en vue subjective.
Toi, tu aurais une vue omnisciente où tu serais un petit peu...
Non, non, c'est juste que je suis en vue subjective, je me cache, je suis dans mon rôle où je ne veux pas être touché. Or, il y a des jeux de tir en vue subjective où il faut aller vers l'ennemi, il faut courir, sauter, ne pas être... Et puis buter tout le monde. Et tu t'en fous si tu es touché vu que tu as des soins après. Et donc, en fait, moi, j'ai un problème là-dessus. Bref, pour revenir à Outlast, c'est que je suis en vue subjective, en plus, dans une atmosphère hyper pesante. Je ne suis pas en capacité psychologique de repérer des patterns d'ennemis.
Le problème, c'est que c'est une impasse 4, 5, 6 fois par un mec. Et en fait, oui, t'es obligé de détricoter l'ambiance et d'analyser justement ces patterns de comprendre les mécaniques.
Donc, en fait, il faut vivre le jeu. En ressortir, donc
Analyser les
récupérer de la distance pour analyser et re-rentrer dans le jeu une fois que t'as... Et moi ça, c'est pas possible. Je suis assez fasciné, moi, notamment sur Outlast 2, qui est le jeu aussi un jeu pour YouTubeurs, pour des let's play et des trucs comme ça. Regarder les gens jouer, c'est assez marrant, que ce soit PewDiePie ou Squeezie en France ou d'autres. Et ben, en fait, ils sont exactement là-dedans. Ils sont dans ce truc où ils ont une distance. Et en même temps, ils sont hypersensibles aux jumpscares, donc ils vont hurler, ils vont machin et tout ça.
Comment ils gèrent justement le fait de refaire 5 fois une séquence pour... Je sais pas, j'ai pas regardé leur vidéo, mais ils le montrent ça, ils hurlent,
mais en même temps, ils rigolent. Ils sont dans une espèce de distance avec leur propre peur.
Parce qu'ils ont des spectateurs aussi. Je pense que si on te regardait, si tu savais que tu étais en train de... en train de jouer, je pense que tu...
Je trouve que ça pose de belles questions, parce que moi, je me rappelle... Alors, après, aujourd'hui, ça semble complètement délirant, mais le premier Alone in the Dark, avec ses quelques polygones et tout ça, et puis il y avait des gens qui regardaient autour de moi, enfin bon, c'était... Et on flippait, quoi. Il y a une sorte de monter comme ça en gamme, en recherche de la peur et tout ça, qui pose question.
Effectivement, il y a ces mécaniques qu'il faut analyser, qui finalement cassent quelque part un petit peu l'ambiance, même si j'ai l'impression qu'ils ont quand même cherché à ouvrir un petit peu, encore une fois, les espaces sont un petit peu plus ouverts que sur le premier, nous laissent un petit peu plus de latitude dans la manière de nous positionner par rapport à un ennemi, d'anticiper un peu ses déplacements. Et puis, je trouve qu'il y a une bonne mise en scène du corps du héros, important en FPS. Je trouve qu'on gère bien le fait de sauter une plateforme en courant, tout ça est bien géré. On voit même ses mains, moi j'ai plusieurs fois sursauté, c'est idiot.
Mieux que dans Resident Evil. Je vais faire une comparaison toujours avec Resident Evil. Ouais, c'est effectivement la sensation du corps est mieux gérée que dans un R7.
En voyant ma main, parce que ma main a grippé un rebord, mais tu vois un truc qui arrive sur la gauche. Dans ces jeux-là, ton champ visuel, il est en stress. Dès qu'il y a quelque chose qui rentre, voilà, c'était ma main qui. Bon, bref, mais. Et ouais, il y a un vrai stress. Continue dans ce jeu.
Outlast 2 sur PC et console, et 30 euros, je crois, une trentaine d'euros.
Ouais, c'est ça, ouais.
Qui reste quand même, voilà. Pour ceux qui sont dopés à l'adrénaline, c'est vraiment un.
Ah bah oui,
c'est un shot d'adrénaline.
Sensation assurée.
Ça. Outlast 2. Et on reste dans la vue subjective. Ah bah non, on reste pas dans la vue subjective parce que nous allons accueillir Monsieur Fall.
Ah bah oui.
Mais quelque part, est-ce que Monsieur Fall, c'est pas la. Non. Non, c'est une transition un peu pourrie, c'est pas grave. On accueille Monsieur Fall de TripTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose un truc incroyable. Je vous propose de jouer au domino. Mais pas n'importe quel domino. Des dominos qui auraient pris de la créatine. Et c'est Fantastic Park. C'est un jeu signé Brett Gilbert. C'est illustré par Bénédicte Amar. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui vont durer une trentaine de minutes. Et c'est édité en français par Blue Orange. Et là, je vois dans votre regard, mon cher Erwan, que vous dites qu'il est devenu complètement fou. Qu'est-ce que c'est que cette boîte avec une licorne violette, un hibou vert avec des cornes? C'est complètement dingue. Il est devenu fou, monsieur Fall. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est étonnant, il est vrai. Mais Fantastic Park est un jeu abstrait. C'est un jeu de domino. Donc on aurait pu mettre n'importe quelle thématique. Et là, Blue Orange a décidé de faire ça. Faire un truc qui va attirer le causal. Il dit, j'y connais rien en causal. Mais bref, paraît que ça attire les gens. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se laisser avoir. C'est un jeu extrêmement fin, intelligent, parce que Fantastic Park est un jeu de domino avec du bluff et de l'entourloupe à l'intérieur. Oui, c'est pas évident à comprendre, mais c'est un vrai pur jeu de bluff. Car vous allez marquer des points à chaque manche, avec la zone la plus grande correspondant au dernier domino que vous allez garder. En gros, vous allez jouer les dominos pendant une manche, et à la fin de chaque manche, vous allez abattre la couleur qui va vous permettre de marquer le plus de points. Ce qui veut dire que pendant que vous jouez, les autres ne savent pas ce qui vous intéresse. Peut-être que la même couleur que vous va les intéresser, et peut-être que pas du tout. Peut-être qu'il faut leur faire croire que c'est cette couleur-là qui vous intéresse, alors que pas du tout. Comme ça, ils vont s'acharner pour vous réduire votre zone, et sans faire exprès agrandir la vôtre. Bref, c'est fin, c'est subtil, c'est étonnant, c'est malin, c'est déroutant. Oui, moi, ça me déroute, ça me déroute, mais enfin, c'est comme ça, c'est Fantastic Park, ça fonctionne parfaitement, ça renouvelle les dominos, c'est très fin, c'est très malin, et surtout, ça coûte moins de 25 euros. Je vous rappelle le nom du jeu, Fantastic Park, c'est un jeu de Brett Gilbert, illustré par Bénédicte Amar. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 30 minutes. Ça vient d'arriver dans les boutiques, là, il y a quelques semaines, et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Toujours un vrai plaisir. Et puis, voilà, on va rester, donc là, pour le coup, vraiment en vue subjective.
C'est le fil rouge.
C'est le fil rouge, on va dire ça. Et cette fois-ci, c'est avec un jeu qui... une licence où ils sortent un jeu tous les 10 ans, à peu près. 10 ans de développement, un jeu... Enfin, pas vraiment de développement, mais de... De rebondissement dans les développements.
De prototypes qui sont jetés à la corbeille. Enfin, voilà,
c'est ça, c'est une habitude. Et c'est prêt.
This station was your laboratory. And the experiment was a failure. The outbreak can be contained. Earth can be spared. It has to be me. I know what's coming.
Some people will never understand what you can do.
Warning, this is a station-wide emergency. 5, 4...
Drôle de licence. Drôle de licence que ce prêt, qui a été une sorte de vaporware pendant à la fin des années 90 et le début des années 2000.
Hein. 10 ans, vaporware.
Faut se rappeler que c'est un projet qui a été annoncé, lancé en 1995 par 3D Realms.
Au moment de Quake. Il était une sorte de réponse de Quake.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. C'était la réponse. Voilà, il y avait ID Software et 3D Realms. Et puis voilà, Quake sort et donc il fallait... Et Vaporware, voilà, pendant 10 ans, avant de sortir en 2006 d'une manière improbable. En plus, on ne l'attendait absolument plus. Hein, voilà, c'était...
L'identité était bizarre parce qu'on partait d'un prototype un peu à la Quake. Finalement, on arrivait sur un jeu scénarisé, mais qui n'avait plus grand-chose à voir déjà à l'époque avec son...
avec à base de culture amérindienne et d'extraterrestres. Voilà, grosso
c'est
modo.
C'est un peu comme Cowboy et contre Envahisseur. Enfin, ouais. Voilà, il y avait un mash-up comme ça d'univers. Et ça marchait plutôt bien. C'était un bon FPS.
Moi, j'avais. Alors voilà, il y avait le côté finalement sans prétention.
Série B assumée.
Ouais. Techniquement à la hauteur. Voilà, qui emmenait pas loin au niveau du scénario, mais qui était agréable. Je me rappelle l'avoir fini à l'époque. En 2006, parce que donc 95-2006 en après. Au moment de la sortie de Prey 2 est annoncé par Human Head Studio, qui avait donc réalisé le premier Prey.
Donc une suite logique avec le même univers, avec je crois un autre
voilà.
personnage qui devait
Et entre-temps, la licence est récupérée par Bethesda, et puis on jette à la poubelle tout ce qu'avait fait Human Head Studio pour refiler le bébé à Arkane Studio, qu'on connaît pour Dishonored, hein, évidemment, les Français, et qui ont un studio à Austin... par ailleurs, et donc, qui sort finalement 11 ans après, c'est tous les 11 ans, c'est pas tous les 10 ans, hein, c'est 11 ans après le premier Prey, et ce qui n'est pas pour le coup Prey 2, mais une sorte de Prey,
reboot,
mais qui n'est pas forcément un reboot, qui n'est pas
posera,
la même histoire.
On posera la question, qu'est-ce que Prey au final? Bon, on verra, c'est notre question, qu'est-ce que c'est exactement?
Pourquoi avoir gardé le même nom, ou pas, enfin bon... Joël.
Oui, parce qu'on pose même la question de Prey, pourquoi. Enfin, même en y jouant, on se demande. Voilà, ils auraient pu. Je pense qu'ils auraient pu appeler le jeu effectivement tout à fait autrement. Bien Prey, c'est une bonne expérience de jeu. Alors ça commence donc un jeu en vue subjective. J'aime beaucoup le début. Donc ça commence. On incarne. Alors moi j'incarne. On peut choisir un homme ou une femme. J'ai choisi une femme. Donc c'est Morgan New.
Un homme, c'est le même.
C'est Morgan aussi.
Bah oui. Voilà, ouais. C'est ça. C'est
Morgan. Donc soit un homme ou une femme. Voilà, Morgan New. Un début, mais alors très très intriguant. Donc on se retrouve dans la position. On se retrouve donc on est sur Terre en 2032. On se retrouve dans la position de cet homme ou de cette femme qui va subir, qui est appelée en fait, qui sort de chez elle et qui est appelée à subir une série de tests en fait. Donc on est dans un monde. Alors les tests.
Attention au spoil. Hein,
oui, bon, je pense qu'on peut le début. Le début, on peut. Le début.
Non, mais c'est pas un vrai spoil. Vu qu'on va pas expliquer les tenants et les aboutissants.
Oui, voilà. Donc
le début, voilà, on subit une batterie. Test, dont ce formidable test, moi qui reste quand même un très bon souvenir sur il y a une chaise au milieu de la pièce et on te dit cachez-vous.
c'est caché.
Ça va pas être simple.
Alors moi je pensais tout de suite, je me suis dit on va nous passer des tests à la GLaDOS. Quoi. Je m'attendais vraiment à voir GLaDOS arriver parce qu'on suit, on va de pièce en pièce pour suivre une série de tests plus débiles les uns que les autres. Et c'est à partir de ce moment-là que commence, en fait, il se passe un truc un peu étrange. De l'autre côté de la vitre, les scientifiques sont attaqués par une chose un petit peu étrange. Et à partir de là, en fait, on se réveille à nouveau dans son appartement. Et c'est là que
commence l'aventure.
Commence le jeu. Je pense qu'on peut spoiler un tout petit peu le début.
Non, mais sachant que je précise quand même qu'on est à 8 minutes de jeu. Hein,
oui,
donc
voilà.
C'est vraiment l'installation de trucs. Mais gros.
Oui, on peut. Donc. Dommage, je demande l'assentiment.
Non, mais de toute façon, autrement, on parle pas. Mais
oui,
c'est vrai qu'on.
Oui, on peut. Voilà. Et on découvre qu'on ne se retrouve pas dans son appartement, mais qu'on se trouve sur Talos, une station spatiale, qui se trouve en orbite, je crois, autour de la Lune.
C'est ça.
Voilà. Et c'est là que les ennuis commencent. On se retrouve dans cette espèce de grande station spatiale qui a des échos de Bioshock. Effectivement, il ne faut pas s'en cacher par le fait qu'il y a c'est un dédale de couloirs avec un hub, un grand hall central. Et effectivement, c'est désert, c'est vide. Il ne reste plus que des cadavres et des êtres un peu étranges qu'on appelle des mimiques. Les mimiques qui sont des... Comment dire ça ?
Des
arachnides flottants et qui ont la particularité d'adopter n'importe quelle forme. Alors là, ça commence bien, c'est assez drôle, effectivement. On commence un peu. Alors, on flippe gentiment dans ce jeu, mais pas trop. Quoi. C'est pas un jeu d'horreur pur et dur.
C'est une autre tension
et une angoisse. Un peu beaucoup plus diffuse en fait tout au long du jeu. Alors Donc, on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette station spatiale internationale. Pardon. Dans cette station spatiale. Non, en fait, je pense à ça parce que le jeu m'a rappelé, en fait, je sais pas si, bah, Patrick, toi, amateur de nanar, tu as sans doute vu Life.
Oui, bah, nanar, non, je sais pas.
Enfin, bon, non, bon, Life.
J'ai beaucoup pensé.
Ouais, tu as beaucoup pensé. En juin, on pense beaucoup à Life, ce jeu où dans la station spatiale internationale se trouve une créature qui va essayer de détruire.
Nanar, Life,
non, c'est pas nanar, j'exagère.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ça pose des questions assez semblables, déjà sur une race extraterrestre de forme assez incompréhensible pour un humain. On ne comprend pas trop bien comment ça fonctionne. Donc ça, c'est bien d'avoir l'étranger alien qu'on ne comprend pas bien, qu'on n'arrive pas à cerner.
Non.
Une espèce de créature organique.
Et les créatures sont très bien. Je trouve qu'elles sont très intéressantes. Elles sont un peu du jamais vu. Dans le jeu vidéo avec les extraterrestres, je trouve qu'elles sont bien designées. D'ailleurs, à propos de design, on reconnaît la patte d'Arcané, notamment dans la gueule des visages.
Ils ne sont pas dans le photoréalisme absolu. On a sur un petit côté cartoon léger.
On reconnaît aussi la patte d'Arcané dans ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est surtout le gameplay. C'est comme dans Dishonored, on s'amuse. Le gameplay est généreux. Alors, donc, d'une part, on va se retrouver avec des armes qu'on va découvrir. On explore beaucoup dans le jeu. On explore en ouvre de tiroirs, des placards.
Là aussi, signature Arcane, dans les détails, dans les décors. Enfin voilà, c'est très très travaillé. Les décors sont assez sublimes.
Non seulement les décors, mais aussi la représentation de l'espace. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, comme dans un Dishonored, grimper un petit peu partout, monter sur des étagères, sur des meubles. Il y a vraiment tout l'espace en fait va nous servir. C'est ça que j'aime beaucoup. Donc pour en revenir à ce gameplay qui me plaît beaucoup, donc il y a ces créatures qu'on doit abattre avec une série d'armes, donc une arme que j'aime beaucoup qui s'appelle
le canon glu. Bah, c'est la trouvaille du jeu, c'est vraiment le
canon glu qui rappellera aussi à certains ça me rappelait Portal un petit peu aussi. On pense à Portal, Portal 2 quand on y joue.
Moi j'ai pensé à Half-Life beaucoup, mais Half-Life.
Il y a de ça. Portal 2, donc avec ses successions de.
Le générique d'intro est un hommage à Half-Life. Hein, l'espèce. On se rappelle tous du tramway, du métro comme ça de Half-Life. Là on rentre dans un hélicoptère et exactement dans le même principe. Mmh. On est dans l'hommage à ce niveau-là.
Et l'autre astuce du jeu, c'est qu'on va se découvrir des pouvoirs, mais des pouvoirs qu'on va emprunter en fait aux extraterrestres. Du coup, en fait, on se trouve avec une association à la fois d'armes qui sont
militaires,
et puis de l'autre côté, les pouvoirs qu'on va s'accaparer de ces extraterrestres.
Ceux qui rappellent aussi les œuvres précédentes d'Arkane Studio.
voilà. Bon.
On est un peu
en thérapie. Quand on fait son choix, quand on commence à récupérer des options de les neuromodes, on a ce choix. Est-ce que je vais rester humain et amplifier mon côté armement, etc. Ou alors je vais aller vers cette technologie alien qui est séduisante parce que les pouvoirs aliens sont intéressants, plutôt rigolo à utiliser et ils sont plutôt utiles dans ce jeu qui est loin d'être une sinécure.
Non. Et j'aime énormément parce que c'est vraiment un jeu qui demande un rythme assez lent. C'est-à-dire on passe comme dans Dishonored. Moi je pense beaucoup à Dishonored parce que je passe mon temps à tout explorer, lire beaucoup de lectures, et c'est pas inintéressant effectivement, les lectures qui aident un peu à reconstituer les événements qui se sont passés à l'intérieur de la station, et je trouve ça intéressant surtout par le gameplay quoi. Alors j'aime beaucoup la DA est magnifique, je trouve que il y a des moments qui sont absolument fascinants et très agréables, notamment la sortie en apesanteur, je trouve que c'était un des grands moments du jeu. Je trouve que par exemple dans Dead Space c'était pas mal, mais là c'est vraiment on s'y croit quoi, c'est-à-dire on a vraiment l'impression d'y être, de pivoter dans l'espace. Et pour en revenir, moi, ce qui me plaît dans ce jeu, c'est sa générosité en termes de gameplay, quoi. C'est-à-dire qu'il permet l'association, effectivement, de plusieurs armes. On va essayer et des armes non seulement dont on va se servir pour abattre nos ennemis, mais aussi pour se faufiler dans des passages qui paraissent inaccessibles. Je pense notamment en fait à ce canon glu qui va permettre de construire des passerelles pour accéder à des espaces qui nous paraissaient
accessibles. C'est un peu le pendant du Red Faction où on détruisait tout avec une sulfateuse pour se faire des chemins et là on les crée avec ce.
On ressent Red Faction des tiroirs. Pas mal, Patrick. Ne l'oublions pas, Red Faction. Patrick, tu as l'air d'avoir un peu souffert là-dessus.
Moi, j'ai un peu souffert. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'avais refait le Fantastic Doom il y a un an. Je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est un très, très bon jeu. C'est un très bon jeu avec une expérience de jeu, super nerveux. Le dernier Doom qui est ressorti, le remake d'il y a un an ou deux. Qui est fabuleux. Je sortais de ça. Donc, je me suis dit, prêt pour moi, c'est du FPS. Je pensais au prêt de 2006. Donc, je suis parti bille en tête dans ce jeu en me disant, c'est un FPS, un actionneur où je vais y aller comme un bourrin. Eh ben non. J'ai découvert, pendant mes deux premières heures de jeu, je me suis fait rétamer. Et en fait, j'ai compris. On meurt énormément. Et il m'a fallu un petit temps d'adaptation en me disant, tu te calmes, tu n'es pas dans un Doom. Parce que tous les voyants sont ouverts. On est dans un huis clos spatial, on a des monstres aliens. Donc pour moi, on sort la sulfateuse et on y va. Attention, ce n'est pas un FPS d'action, ce n'est pas un nouveau Doom. On est vraiment dans la logique arcane, comme tu disais. On est sur les gameplays du studio.
Alors, on n'est pas sur le quick FPS.
Pas du tout. Et c'est vrai que le titre peut être trompeur. Le titre peut être trompeur. Et ça, il faut le comprendre quand on se lance dans cette aventure. C'est une aventure exigeante à tous les niveaux en termes de difficulté, qui est exigeante en termes de. Je pense qu'il faut vraiment faut que le joueur vraiment se lance dans l'aventure. Il faut lire pas mal pour bien comprendre tout ce qui se passe. Il faut écouter les dialogues. On n'est pas dans un Doom-like habituel. Et on est beaucoup plus proche d'un BioShock que d'un Doom. Ça, faut le savoir. Mais une fois qu'on passe ce cap,
qu'on a réalisé,
qu'on s'est fait rétamer plusieurs fois, qu'on comprend que il faut quand même passer pas mal de temps dans les menus, qu'il va falloir faire du loot, qu'il va falloir utiliser ce système qui est pas mal foutu de écolo, de recyclage des éléments. Tout ça, il faut le faire. Il faut s'y mettre. On y va quoi. Et une fois qu'on s'y met, on en prend toujours plein la tronche. Moi, je trouve que le jeu est très difficile. Il est pas facile.
Les ennemis sont difficiles.
Il nous laisse très peu de marge de manœuvre. C'est un jeu qui nous apprend. Il y a un côté aussi d'ailleurs. Retry d'une certaine façon. Et il nous apprend par l'échec il faut commencer vraiment on comprend qu'on est qu'une proie là-dedans. Enfin, dans cet univers, on est la proie et on va en prendre plein la tronche. Il va falloir apprendre. C'est là qu'il s'est passé un truc au bout de quelques heures de jeu où j'ai compris que j'étais pas là pour défoncer les monstres. J'étais là pour cohabiter plus ou moins avec eux, choper leur pouvoir, ça c'est important. Et surtout à m'approprier l'espace. Et c'est là où le jeu vraiment, moi, il s'est passé un truc dans mon expérience de jeu au bout de quelques heures. J'ai compris que finalement, le héros, c'était pas moi, c'était pas les ennemis, c'était la base, qui est, en termes de level design, une performance. Il y a un vrai cachet dans cet univers.
Au bout d'une dizaine d'heures de jeu, je n'arrive toujours pas à me représenter les espaces.
Pourtant, le jeu fait tout pour.
Il fait tout pour, mais il est tellement. Les environnements sont tellement. Il est complexe, mais
tu fais tellement d'allers-retours.
On commence à connaître.
Ça devient ton terrain de jeu, en fait, cette base. Et tu parlais de ces passages en vue extérieure quand tu es dans l'espace. Et c'est ces moments où je trouve que tu te l'accapares complètement. Tu le vois comme une maquette, ce monde. Et tu te rends compte qu'il existe. Enfin, moi, il existe. Et je me disais, peut-être que dans 5 ans, je ne me rappellerai plus forcément des tenants et aboutissants du scénario, de mon personnage, même s'il y a des belles performances dans ce scénario. Mais c'est la base. Cet univers, il existe. Il est concret. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un travail sur la cohérence de ce monde physique avec ses sorties dans l'espace qui donne donc cette confirmation. On voit l'endroit de l'extérieur, on débloque des choses peu à peu, on se l'accapare. Et au bout d'un moment, au bout de quelques heures, j'avais un peu l'impression d'être chez moi, avec des aliens qui étaient chez moi. mais on finit vraiment par s'accaparer l'endroit, à le travailler. C'est vraiment pour moi, la vedette de ce jeu, c'est son espace et son univers, avec ses petites trouvailles, comme tu disais, le canon glu, qui permet aussi de jouer avec les niveaux, avec leur configuration, les approprier.
Non mais gameplay aussi, il y a des moments qui sont drôles, c'est-à-dire il y a des moments qui sont astucieux. Je pense à ce pouvoir notamment qui permet de se téléporter dans un objet, dans n'importe quel objet, que ce soit une tasse, de café, une chaise. Et c'est intelligent, effectivement, des fois il faut se transformer en tasse pour pouvoir accéder à un endroit.
C'est vraiment intéressant. On ne fait pas le pas face aux ennemis et il faut trouver des astuces. On est vraiment dans un jeu de survie, il faut trouver des moyens de se. De coexister avec ces monstres qui sont là. Enfin, il y a quelque chose de très fort sur la place du joueur dans un univers de jeu, dans un endroit créé virtuellement, et qu'est-ce qu'on y fait en tant que joueur? Comment on se positionne? Quelle place on prend face à ces entités?
Pas une différence, avec Outlast 2. Je trouve que le jeu...
Ah oui, on n'est pas du tout sur le même...
Non, mais on est dans un univers tout aussi hostile, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus... Hostile, mais il y a beaucoup plus, justement, de générosité en termes de gameplay.
Et puis, on a un vrai rapport à l'espace et aux objets. C'est très important. Là, la physique est très bien fichue. Tu peux prendre n'importe quel objet et le balancer. Et ça, dans Outlast, on n'a pas ça. Outlast, à part ouvrir les placards, etc. Là, on peut vraiment se saisir de n'importe quoi, le jeter. On a une appréhension physique. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose... Cet endroit existe. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait même en faire un parc d'attractions et se rendre compte, vraiment aller explorer tout ça. Et c'est pour moi, c'est un Rubik's Cube, en fait, dans l'espace, cet endroit, enfin, qu'on va explorer dans tous les...
Eh bien, merci. Prêt? Il y a d'autres choses où...
Parce que ah bon, on peut en parler des heures.
Oui, voilà, c'est bien ce que j'ai senti. Encore une fois,
il faut lui laisser le temps.
Une belle performance, performance d'Arkane pour reprendre cette question, licence. Voilà, avec la question existentielle, pourquoi après?
Pourquoi après? C'est peut-être la question. Comme tu disais, peut-être qu'un autre titre aurait été plus...
Plus judicieux. Bon, après, il faut qu'il y ait le jeu à ses limites. Et la limite, c'est quand même celle du scénario. C'est-à-dire qu'il aurait pu être un peu plus fouillé, un peu plus accrocheur.
Oui, même si je trouve que le jeu, par sa difficulté, par les échanges qu'on a avec les personnages, de la lecture, il y a une tension continue. Moi, ce jeu, je ne me suis jamais baladé sereinement. Il y a toujours une tension. On se demande toujours ce qui va se passer.
Mais pas une tension morbide comme dans Outlast 2.
Bah non, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe et puis on va de découverte. Et surtout, il y a une paranoïa. Il y a vraiment une paranoïa sur notre place en tant que joueur dans le jeu. Il y a tout un développement comme ça où on se sent pas très à l'aise avec ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment bien fichu.
Arkane, Bethesda, prêt, console et...
Alors, d'après ce que j'ai vu...
Tu ne veux pas me laisser terminer, mais bon, vas-y.
Non, beaucoup plus agréable, je crois, au PC. Parce que beaucoup de manipulation d'items dans les menus, et c'est vrai qu'au pad, ce n'est pas forcément très, très fluide. Je pense qu'au PC, ça
se passe
un peu
mieux. Il paraît que c'est pas mal. Ouais. Alors, on va terminer avec deux jeux, rapidement, mais je crois que ça ne va pas poser trop de problèmes d'être rapide. Enfin, j'essaie d'être... Moi, ça va peut-être me poser des problèmes, mais on va commencer par toi, Patrick.
Oui.
Avec Kona. Encore une fois, la vue subjective et l'aventure et le scénario.
Une petite pointe de fantastique. Mais là, on est plus sur le mode enquête. On est plus sur le mode enquête dans Kona. En quelques mots, on incarne un enquêteur qui est dépêché au Québec dans les années 70, dans une petite bourgade où il se passe des choses un peu bizarres. On est envoyé sur place et on va enquêter puisqu'on est un enquêteur. C'est un petit peu logique. En fait, il va se passer des choses. On a un accident dès qu'on arrive. Il y a une tempête qui se met en place. Donc, il y a tout un background qu'on va découvrir aussi avec pas mal de lectures aussi dans ce jeu. Alors, il est intéressant parce que donc ça se passe au Québec dans les années 70, donc avec vraiment une
déjà alors intéressant puis, parce que ça se passe au Québec dans les années 70.
Parce que ce jeu il a vraiment un cachet très spécifique à lui. Enfin, il y a déjà cette voix off qui parle avec l'accent, etc., qui prend un petit peu de décalage par rapport aux actions, qui nous explique, qui parle au passé de ce que vit le ce qu'on vient vue subjective. Donc il y a une ambiance, et je pense que vraiment la force de ce jeu, qui est un jeu à budget moyen, on va dire, c'est un jeu, je crois qu'il vaut une vingtaine d'euros, il est en promo, je crois, sur le PSN en ce moment, c'est pas un jeu à grand budget, on sent que les moyens étaient assez réduits, mais il arrive à créer un truc, parce que il y a cette ambiance qui se développe peu à peu, c'est-à-dire qu'on arrive, on commence son enquête, et on se rend compte qu'il n'y a personne dans le village, tout est déserté, on trouve des choses assez inquiétantes en se déplaçant et en commençant l'enquête. Et on est dans un mix entre des systèmes de survie, parce qu'il fait froid, il fait très très froid, et il faut survivre, donc il faut allumer des feux, etc. Donc on explore comme ça cette région, et puis on va avoir cette narration, un petit peu comme, on n'a pas parlé sur Prey, mais il y a aussi sur Prey cette idée de narration qui se fait par le décor, par l'exploration de l'univers. Et là, c'est un petit peu pareil. Évidemment, on est dans un style différent, on n'a pas les mêmes moyens, mais là aussi, il y a cette découverte des endroits et on imagine pas mal de ce qui a pu se passer et les événements qui ont pu survenir. On est dans un simili monde ouvert avec évidemment des barrières, on n'est pas complètement, mais il y a quand même cette volonté de laisser le joueur là aussi s'approprier l'espace de jeu. On se déplace en voiture, mais on peut aussi marcher à pied, c'est de trouver des choses cachées dans les hors-piste. Et donc, on mène cette enquête entièrement en vue subjective. On retrouve les mécaniques de jeux d'aventure avec ce pointeur qu'on a donc en vue subjective qui permet d'ouvrir tous les placards, de fouiller, de lire, d'actionner des choses. Et tout se vit pareil en plan séquence avec cette vue subjective où on va commencer à prendre sa carte vraiment à l'écran. Tout se fait comme ça en vue complètement.
Là, ça me rappelle ce jeu-là qui se passait dans les montagnes russes avec le. Montagne en deux mots, hein, en Russie.
D'accord.
En Russie, dans les montagnes.
Et pareil, voilà, qui était une sorte de trip vue subjective comme ça.
Oui, voilà, où il y avait un mystère avec des campeurs qui avaient été enlevés, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était pas génial.
Je ne vois pas. Mais en tout cas, donc, pour dire, donc, on a une voiture, on se déplace, après il y aura un autre moyen de transport. Et puis peu à peu, plus le jeu avance, et puis il y a quelque chose, il y a une menace qui se précise. Il y a dans les lectures, les choses qu'on découvre, on se rend compte qu'il y a une menace, il y a du surnaturel qui plane. Et ça, je trouve que c'est vraiment la réussite du jeu, c'est de vraiment développer une ambiance assez épaisse avec des bruitages parfois. Dans une maison, on entend un truc. Il y a un côté assez inquiétant et qui est amplifié par ce côté vue subjective.
Et est-ce que ça marche ?
Pour moi, ça a marché. Alors après, il faut bien savoir que le rythme est lent. On est sur un jeu plutôt lent qui prend son temps. Ça pourra rebuter, je pense, les joueurs qui vont vouloir quelque chose ou qui partent très vite. On n'est pas dans du Outlast du tout. On est même peut-être sur l'opposé d'un Outlast parce qu'on n'est pas sur de la fulgurance de sensations fortes. Au contraire, c'est un jeu qui prend son temps où il faut prendre le temps d'explorer, d'essayer de comprendre, de lire, etc.
Sur un Firewatch
avec des énigmes. On est plus sur cette thématique, sur ce mode de présentation avec des énigmes.
Ça me fait penser quand je vois les images. C'est un peu Firewatch
avec
sous
la narration, de la narration comme ça, très environnementale, comme Prey, c'est peut-être le fil rouge de cette semaine, avec ce côté aussi inquiétant qui se développe. Encore une fois, c'est assez lent, donc ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Il y a un rythme aussi qui fait que voilà, il faut se déplacer. Les déplacements en voiture sont pas forcément super super excitants. Ça m'a rappelé Deadly Premonition, je m'en en parlais tout à l'heure, qui avait aussi des déplacements en voiture, mais qui était un vrai, qui était vraiment difficile, mais qui en jouait, le jeu en jouait. Là non, en tout cas, moi je le conseille vraiment aux joueurs curieux d'expériences, de jeux expérimentaux, d'expériences narratives, et je trouve que ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne. D'accord. En mixant comme ça pas mal de choses, un peu de survival, un peu d'aventure, un peu de FPS, même si on n'est pas sur un jeu d'action. Et je trouve
PS4, PC, c'est ça ?
Alors, il est PS4, PC, Xbox One, je crois. D'accord. Il est sur toutes les plateformes et donc en promo, je crois, PSN en ce moment. Donc, pas très cher, on peut tenter le coup. Et moi, il m'a plu. Moi, j'ai bien aimé l'expérience, même si tout n'est pas parfait. Encore une fois, le rythme ne plaira pas à tous, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il a un vrai cachet.
Allez, on va terminer très rapidement parce que j'étais un peu obligé d'en parler. Parce que j'ai un historique avec cette licence.
Oui, c'est il y a longtemps que tu...
Il est sorti, aurait-il dû sortir ? C'est peut-être la question, c'est Siberia 3. It was a terrible blizzard with snow and ice. And then nothing. My memory's all mixed up. Hang on! Siberia 3. Alors Siberia 3. Est-ce que je peux lister les problèmes ? Non, parce que ce serait trop long. Alors, on va parler de ce qui a marché. Non, ça, ce serait trop court. Et donc, on va parler un peu d'historique pour voir d'où ça vient, parce que c'est le premier point important, parce que Siberia 3 commence là où le 2 s'est arrêté et parle aux joueurs qui ont joué aux deux précédents. C'est-à-dire, on est quand même... on en a 13 ans plus tard, Siberia 2 date de 2004, Siberia date de 2002. Mmh. Alors Siberia, c'était quoi ? C'était un jeu point and click signé Benoît Sokal, donc auteur de BD et qui avait déjà un pied dans le jeu vidéo, notamment avec la Merzone. Mmh. Et moi, j'avoue que voilà, Siberia en 2002, pour moi, était un très grand souvenir, vraiment, dans le style point and click. On incarnait Kate Walker, qui était une avocate new-yorkaise qui débarquait dans les Alpes françaises pour une histoire d'héritage. Et elle se retrouvait dans une sorte de quête initiatique à base d'automates, à base de mythes de mammouths, de Russie, de post-soviétisme. Enfin, voilà, c'était... très bien fait. On se baladait avec Oscar, cet automate. On allait à la recherche de Hans Vorarlberg, qui était une sorte de génie des automates. Et voilà, il y avait toute une mythologie et il y avait aussi une quête initiatique, une séparation avec la vie antérieure, avec la vie new-yorkaise, où elle se séparait de tout le monde. C'était assez magique là-dessus. Et puis, Siberia 2 est arrivé et a tout gâché. Hein, déjà, c'était Siberia 2, on retombait dans une sorte de... avait tous les défauts du point and click, en fait. tous les défauts du point and click, le pixel hunting, tout ça, et puis un espèce de scénario où, à défaut de cette quête initiatique et de cette découverte, eh ben, on était dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on voulait rejoindre l'île de Sibéria, on voulait voir des mammouths, et finalement, tout ce qui se mettait en travers de notre route ressemblait non plus à des choses qu'on découvrait, mais à des obstacles. C'est-à-dire qu'on reprenait Sibéria, mais à l'envers, et finalement, ça marchait plus du tout, et puis surtout, voilà, on sentait que ça tournait un peu en rond. Qu'est-ce qui reste de Sibéria 13 ans plus tard ? Plus grand-chose, mais d'une manière, moi, quand j'ai appris que Sibéria 3 était prévu, je comprenais pas, enfin voilà, c'est pourquoi. Et c'est la question que beaucoup de gens ont dû se poser, et même dans les gens qui ont développé ce jeu. Déjà, pourquoi est-ce qu'on le sort ? Alors, c'est un problème. Déjà, Sibéria se lance, Sibéria 3, c'est daté. C'est un truc, mais voilà, on est en 2017, mais on n'est pas en 2017. Hein, c'est une sorte de voyage dans le temps. On passe en contrôle direct avec le pad, parce que...
On n'est plus sur du point and click pointé, coin et cliqué,
non,
ici.
Non, enfin, du tout.
On est sur du dynamique.
On est sur du contrôle direct, mais avec caméra fixe. Déjà, ça crée un décalage, avec une animation hors d'âge, c'est-à-dire qu'on est quand même... Le moonwalk contre les murs, vous vous souvenez ?
Oui.
Vous vous souvenez de cette époque du jeu vidéo où on continue à marcher quand on est sur le mur ? Enfin, y a tout un tas de trucs avec un doublage atroce, avec évidemment le lip-sync, t'oublies, c'est n'importe quoi, et avec des dialogues qui, dès le départ, nous font penser qu'on n'est pas là où on devrait être. Enfin,
il rappelle un petit peu d'où vient Sibéria dans le jeu, non, quand on le lance.
Il y a deux, trois dialogues pour dire d'où tu viens. En fait, c'est comme si il s'adressait à un truc où il y avait une énorme communauté de joueurs, un jeu très attendu depuis 13 ans, où les gens avaient rejoué aux deux premiers avant de commencer le troisième, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et donc, on est complètement paumé dès le départ. Et il faut vraiment se souvenir un peu de ce qu'il y a. Mais voilà, il n'y a rien qui marche, surtout, c'est ça le problème, c'est l'environnement graphique. Alors, il y a quelques efforts, si on trouve des qualités, c'est peut-être sur les décors, voilà, où on retrouve un peu de la patte de Benoît Socal, mais sur tout le reste, que ce soit les énigmes, que ce soit les contrôles, que ce soit les graphismes, que ce soit l'audio, si, la musique. La musique est pas trop mal. Le doublage est gênant. Des fois, quand même, on a l'impression d'avoir de la voix générée par ordinateur. Hein. Mais limite, on est là, quoi. C'est l'écriture est un problème. Je ne sais pas. La grosse interrogation, c'est à la fin, les gens qui l'ont fait, les gens qui l'ont sorti, sont conscients de ça. C'est pas possible de pas être conscient de ce qu'on sort à ce niveau-là. Et voilà, la question qu'on se pose, c'est pourquoi l'ont-ils sorti ? Je sais pas si c'est parce qu'ils hésitaient, il y avait le choix entre jeter le truc, enfin, ne jamais le sortir, ou le sortir en l'état, parce qu'il n'y a plus de sous, et tout ça. Je pense qu'ils ont choisi la deuxième possibilité. Je ne suis pas persuadé que c'était forcément une bonne idée.
Niveau scénario, tu...
Non, ça ne tient pas. On est avec des caricatures d'anciens médecins nazis, quoi. Enfin, tu vois, c'est perdu dans la Sibérie, avec une tribu. Alors, voilà, il y a aussi ça, c'est... On se retrouve avec des autruches des neiges, enfin... Oui, voilà, du pèlerinage d'autruche des neiges vers un lieu sacré. Ouais, mais c'est ça. En fait, quand on se rappelle de ce qu'avait apporté Sibéria, le premier Sibéria, en termes de quête initiatique, en termes de mystère, en termes de mythologie même liée à ce truc, d'ampleur du truc, là, c'est juste déprimant. Et non, c'est un vrai souci à peu près tous les niveaux, en fait.
Voilà. D'accord. Bon, cette note,
ouais, ça jette un froid, mais bon. Bah, écoute,
c'est Sibéria 3, je crois que c'est...
Ça jette un froid,
c'est ça.
Ah, bravo.
Non,
c'est pas... C'est dommage.
On en a fini cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et à laquelle vous allez répondre rapidement parce que je crois qu'on est un tout petit peu en dépasse. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick ?
Alors moi, je me prépare pour le dernier Ridley Scott qui vient de sortir, que je vais aller voir. Là, c'est une question d'heure, donc la suite de Prometheus. Je suis allé voir Life, Origine Inconnue, on en parlait tout à l'heure.
J'exagère.
Tu as parlé de Nanar,
je trouve qu'il est sous-estimé comme film.
Et je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise. C'est vrai qu'on peut y aller reculons parce qu'on se dit, l'alien dans l'espace, on a déjà vu. Je trouve qu'il est très malin, comme j'en parlais sur le huis clos, sur la créature en elle-même. C'est pas le même questionnement, même si, comme Moon, ça pourrait être un très bon épisode de la quatrième dimension. J'en dis pas
c'est
plus.
Vrai. Ah oui, c'est vrai.
Il y a un côté quatrième dimension, bon cru quatrième dimension. Rien que pour ça, il faut le voir. Je trouve qu'il y a une scénario qui tient bien la route, qui pose des questionnements sur, bah, sur un huis clos et l'impact que ça peut avoir sur l'humanité à terme, etc. Ouais. Alors, c'est intéressant et Prey m'y a fait beaucoup penser.
Ouais. Joël.
Moi, je suis en train de lire la suite. Alors, il y a les prix Hugo donc, qui vont être, je ne sais plus quand ils sont donnés, septembre. Donc, la liste des finalistes a été dévoilée. Et je suis en train de lire. Voilà, ils sont pas encore tous traduits en français. Je suis en train de lire elle avait obtenu le prix Hugo pour son précédent livre. C'est Nora Jemisin. Et là, je suis en train de lire la suite. Donc, il est nommé en fait pour dans les finalistes parmi les prix Hugo. C'est un livre de fantasy qui est vraiment très bien écrit. Là, qui s'appelle comment il s'appelle celui-là ? The Obelisk Gate. Le premier tome va sortir en France au mois de septembre chez J'ai lu. Et c'est super bien écrit. Les personnages sont très intéressants. Et le style est flamboyant et magnifique. Voilà, je suis en train de lire ça. Donc, The Obelisk Gate de Nora Jemisin.
Eh ben moi, je vais passer mon tour. Hein, voilà. Non, okay. Je suis allé voir. Non, mais ouais, je m'intéresse.
On a le droit de faire ça ?
Mais non, mais c'est que moi. Tu vois, c'est un privilège. C'est un privilège.
On peut passer
son
tour.
Non, toi non. C'est un privilège. Et puis, promis, je trouverai des choses à raconter la prochaine fois. c'est fini cette semaine. Merci à tous les deux. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt sur nos lives, sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.